ce beau soleil d'été maintenant, parce que c'est l'été. J'ai repris ma bonne vieille Bible des années 70 ce matin. J'aime bien reprendre des fois mes vieilles Bibles. Alors, on a beaucoup de choses à lire ce matin parce que ça va être un petit peu spécial. Il y a des choses qui sont spéciales dans la Bible qu'il faut étudier quand même. C'est pas parce que les autres n'abordent pas ces sujets dans les églises que nous ne devons pas les aborder. Je pense que nous devons au contraire aller en profondeur dans ces choses. Alors on va lire pour commencer Jacques chapitre 1 verset 17. On peut même déjà verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Jésus, je te prie de bénir cette parole que je vais donner ce matin, afin que personne ne se trompe dans ce que je vais dire et comprenne de travers, mais que tout le monde comprenne bien les choses que je vais dire. Je te demande de me donner d'être clair, et je te demande de donner la lumière dans les cœurs de chacun et de chacune, afin que chacun et chacune puisse être fortifié et non pas inquiété. Merci Jésus. Amen. Alors, ce texte, je l'ai lu des milliers de fois depuis 68 que je suis chrétien. Il faut comprendre que nous sommes ici-bas, maintenant, ici, maintenant. Tout à l'heure, là, ce que je viens de dire ici, maintenant, ça fait déjà partie du passé. Voilà, ça y est, encore, il y a encore du passé, du nouveau passé. Maintenant, je suis dans le présent, mais le futur n'est pas encore arrivé. Ça, il est là, mais il est déjà du présent maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans le temps qui passe. Est-ce que c'est nous qui passons dans le temps ? Est-ce que c'est le temps qui passe ? En tout cas, nous ne sommes pas dans la même dimension que Dieu lui-même. Dieu, lui, il est éternel, sans commencement ni fin. Nous sommes croyants. Nous croyons que Dieu est éternel. Vous croyez que Dieu est éternel quand même, hein ? Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Alors parfois, quand j'étais plus jeune, je me posais la question, mais comment Dieu peut-il permettre les horreurs qui se produisent et bronche pas ? Comment il fait pour rester impassible comme ça ? En plus, il nous est dit qu'il sait à l'avance ce qui va se produire, qu'il sait tout. Ça s'appelle l'omniscience. Alors ça me tracassait pas mal. Et puis j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai prié à ce sujet. Et puis là, dernièrement, ce texte m'a apporté quelque chose d'extraordinaire que je n'avais jamais vu avant. Et je vais vous en parler aujourd'hui. C'est une chose qui est rétablie. Une chose qui est rétablie. Dieu est en dehors du temps. Nos prières d'aujourd'hui, écoutez bien, faites attentif, nos prières d'aujourd'hui, il les a déjà entendues de toute éternité. Celles que nous ferons demain, il les a déjà entendues de toute éternité. Et nos bonnes œuvres, la même chose. Il n'est pas surpris par les œuvres que nous faisons. Il sait tout ça de toute éternité. Et les mauvaises, c'est la même chose. Parce qu'il a déjà vu, avant même que nous soyons nés, toutes choses. Alors, ta prière que tu feras demain, avec sérieux, avec foi, ce n'est pas demain qu'il l'entendra et qu'il l'exaucera, il l'a déjà exaucé dans son éternité. Avant même que tu ne deviennes un homme, une femme ou un enfant. Il est Dieu, il est extrêmement différent de nous. C'est pourquoi il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il est différent. Il ne faut pas ramener Dieu à l'image de l'homme en pensant qu'il est comme nous. Dieu n'est pas là sur son trône et puis, ah tiens, il prie, qu'est-ce qu'il demande ? Ah ben oui, je lui, ouais, après tout, ouais, je vais lui donner ça. Ou ah ben non, ça ne me dit rien, je ne veux pas lui donner. Ou peut-être plus tard, on verra. Non. Il n'y a en Dieu ni changement, ni variation, ni ombre de variation. C'est-à-dire que tout est, il est, point barre. Avec tout ce que ça comporte, avec sa création dedans. Mais nous, on est dans la création, et dans la création, ben, il y a le temps. Ce qui fait qu'on a l'impression que les choses sont passées, présentes ou à venir. Mais pour lui, non, tout est. Et si ta prière n'est pas sérieuse, si elle n'est pas honnête, ce n'est pas maintenant que Dieu la refusera, il l'a déjà refusée dans le passé éternel. Il l'a déjà refusée de toute éternité. Et c'est là que beaucoup de croyants sentimentaux se trompent au sujet de Dieu en pensant qu'en pleurnichant, ils vont pouvoir faire changer les idées de Dieu. Dieu ne change pas. Il va pas se mettre à changer ses idées, ses plans, parce que j'ai pleurniché devant lui, parce que, Seigneur, quand même, tu vois, si, ça, quand même, non. Alors, Dieu, de temps en temps, se montre sous cette image-là, sous cette forme-là, comme un homme, en quelque sorte, mais ça, c'est au cours de notre histoire. C'est au cours de notre histoire, et c'est pour nous faire comprendre sa loi morale, afin que nous puissions vivre bien les uns avec les autres. Il nous dit, par exemple, si tu fais ça, il t'arrivera ça. Si tu fais comme ça, il t'arrivera comme ça. Ce qui fait que cela crée une culture, cela crée une façon de vivre, ici-bas, sur Terre, dans le temps. Mais pour Dieu, c'est... Nous avons besoin d'apprendre. Lui, non. Il sait. En vérité, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il est. Il est, c'est tout. Il n'y a pas de changement. Il est. Dieu ne fait pas des choses, ne pose pas des actes à l'occasion, sur un coup de tête. Bien que des fois, il nous le laisse croire. Il est Dieu, il est Dieu dans son détachement impassible. Comme je vous l'ai dit déjà. Et nos prières et nos bonnes œuvres ne sont pas perdues. Celui qui agit bien sera récompensé dans le temps. Il nous a appris ça par le livre, nous le savons, il nous l'a dit par le livre, il nous l'a dit par les prophètes. On le sait, ça nous aide à vivre. Mais en réalité, ça nous apprend à vivre dans cette condition mortelle dans laquelle nous sommes, sur cette terre où on est limité. Dieu, non, n'est pas limité en rien. Parce que nous vivons dans cette création qu'est le temps. Dieu a créé le temps. Pour lui, le temps, ça n'existe pas. Il l'a créé juste pour que nous puissions... y évoluer. Pour Dieu, notre Père, tout est en lui et il ne change pas. Il est le Créateur qui maintient tout dans la voie et dans l'ordre qu'il a donné depuis le commencement. Combien de fois j'ai lu Colossiens 1, je vais vous le lire, Colossiens 1, 15. Vous allez voir. Vous l'avez déjà lu, puis vous m'avez déjà entendu prêcher là-dessus. Colossiens 1, 15. Écoutez ça. Le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc Jésus a été créé image de Dieu, mais il était homme aussi, donc limité. Mais en tant que Dieu, c'est en lui, c'est en Jésus que c'est écrit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né entre les morts, avant d'être en tout le premier, parce que Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. Alors, moi j'ai compris certaines choses dans ce texte, mais pas tout. Je n'avais pas compris, mais aujourd'hui c'est rétabli, je vais vous l'expliquer. Jésus est le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. En lui, est-ce qu'il y a une ombre de variation? Non. Toute chose subsiste en lui. Quelle chose? Toutes. Vos actions, vos prières, vos exaucements, vos non-exaucements, vos problèmes, vos solutions. Tout est en lui et tout subsiste là. Tout subsiste en lui qui ne change pas et en qui il n'y a pas de variation. Nous, il nous semble que les choses changent. Là, on vient de passer l'été, c'est plus printemps, on va pouvoir aller à la piscine. Alors, il y a 15 jours, on ne pouvait pas, parce que c'était trop froid. Le temps passe, les choses changent. Pour Dieu, rien ne change. Rien ne le surprend. Alors, que nous sommes constamment surpris, on est constamment dans l'expectative. On attend ceci, on attend cela, on prie pour que ceci arrive, pour que cela arrive. Puis des fois ça arrive, puis des fois ça n'arrive pas. Puis on est dans l'expectative, on est dans le souci, on est dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va nous arriver? Dieu le sait. Car c'est déjà en lui. Tout ça, c'est déjà en lui. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les choses désagréables. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est pas un petit dessein, c'est le dessein de S-E-I-N. Hein. Il est donc un dessein pour notre vie évolutive ici-bas. Mais pour lui, c'est déjà fait. Mais pour nous, c'est évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un dessein? Ça veut dire qu'il a une intention qui ne changera jamais. Il a conçu en lui-même, en esprit, un but que nous, dans le temps, nous avons à atteindre. Vous saisissez ça? Ou est-ce que c'est trop compliqué? C'est trop philosophique? Non, quand même pas, hein? C'est la Bible. Et rien ne s'opposera à son dessein. Il n'y a rien qui va s'opposer à son dessein, à ce qu'il a conçu de toute éternité. Alors maintenant, à la lumière de cette révélation, on va lire Romains 8. Verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, écoutez bien, car, donc le mot car, c'est ce qui suit ce texte, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, attention un mot que les gens n'aiment pas, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Alors ne vous inquiétez pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous sommes avec Dieu, qui ou quoi peut être contre moi? C'est là qu'il nous faut la foi, c'est là qu'il nous faut être comme lui, immuable. Ça, c'est un texte que les religieux n'aiment pas développer. Vous êtes là parce que c'est le destin de Dieu, c'était l'intention de Dieu, c'était le projet de Dieu, et vous ne pouvez pas vous y échapper. Ce destin formé par lui-même, en lui-même, de toute éternité, il s'accomplit dans notre temps, dans le temps. Il nous a connus d'avance, verset 29. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, verset 25. Je vous rappelle que l'image, de son fils. Son fils, il est l'image de Dieu. Donc il nous a prédestinés à être comme lui. On n'y est pas encore arrivé. Mais on est en chemin. Qui pourra changer ça? Qui pourra vous sortir de sa main? Qui? Il vous a appelé, verset 30, il vous a justifié, il a tout fait pour que nous soyons justifiés, c'est-à-dire que, bon, on est venu sur cette terre, on est né dans le péché, on est des pécheurs, on fait tous des péchés, mais Jésus est venu et il a payé le prix pour que nous soyons pardonnés. Il est mort sur la croix, c'était le sacrifice, il a fait ce sacrifice pour que nous soyons pardonnés, c'est-à-dire la colère de Dieu est tombée sur lui, à la place de tomber sur nous, et la justice qui était en lui est venue sur notre compte, et maintenant nous sommes justifiés. C'est ce que la Bible dit. Vous qui connaissez la Bible, vous savez ces choses. Donc il vous a appelé, vous avez entendu son appel. Les miens reconnaissent ma voix, dit le Seigneur. Il vous a justifié, mais quand? Quand? Eh bien, de toute éternité. De toute éternité. Par contre, dans cette création-là, ici-bas, sur cette terre, là où règne l'espace et le temps, cette justification a eu lieu à Jérusalem, sur la croix, quand Jésus était en train de mourir sur la croix et quand il est ressuscité, et aussi le jour où vous avez cru, puisqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qui peut croire en lui, puisque c'est... nul ne peut venir à lui, sinon s'il n'est pas attiré par le Père. Et ça n'est pas celui qui court ou celui qui veut, mais c'est la volonté de Dieu. C'est tout ça, c'est des choses qui sont écrites, et que si vous lisez votre Bible, vous connaissez. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Sinon, il y aurait eu un changement en Dieu, il y aurait eu une variation. Quelque chose aurait changé, aurait varié. Or, Jacques le dit, il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Ceux qui sont contre vous, ils jouent le rôle qui leur a été dévolu. Comme Judas, il a joué le rôle qu'il devait jouer. Même Jésus l'encourage. À la Sainte Cène, au moment de la Sainte Cène, ils lui disent ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et Judas se lève, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre Jésus contre 30 pièces d'argent. C'est ce qu'il avait à faire. C'était prophétisé, c'était annoncé par Zacharie, tout ça. Même la somme était prophétisée. Qu'est-ce qui change en Dieu? Rien. Mais pour nous, les choses changent, les choses évoluent dans le temps. Alors ceux qui vous accusent, verset 33, ils ne font que ce pour quoi ils ont été faits. Mais cela, c'est-à-dire leur accusation, ça ne change rien. Rien. Dieu vous a déjà justifié. Alors ils peuvent vous accuser devant Dieu, aller dire des horreurs devant Dieu et devant les autres. Dieu vous a justifié. Lisons Romains 8, 33, 34. Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Rien. Qui accusera les élus? Ah, le mot élu. Ah, l'élection, la prédestination, alors ça, les pasteurs, ils détestent prêcher ça. Vous savez pourquoi ils détestent prêcher ça? Parce que ça fait peur. Ça fait peur aux gens qui sont timorés dans leur foi, qui disent « Alors, est-ce que je suis prédestiné? Est-ce que je suis élu? Est-ce que Dieu m'aime? J'ai tellement péché dans ma vie, je ne sais pas si vraiment je suis de Dieu ou du diable. » Et ils se font des... Alors, les pasteurs, pour arrondir tous les angles, ils n'abordent jamais ce sujet, parce que c'est un sujet qui fait peur aux gens, donc ils ne l'abordent pas. Mais c'est écrit pour notre instruction. C'est écrit afin que, si nous aimons Dieu, nous le sachions, afin que nous sachions nous comporter de façon digne. Qui accusera les élus de Dieu? Eh oui, les élus, voilà un mot que les gens n'aiment pas entendre. Alors, si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, c'est-à-dire si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, s'il vous a reçu en lui, eh bien, c'est que vous avez été élu avant la fondation du monde. Ah bon, Michel, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je vous raconte. Et vos enfants, je vous dis ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit là? En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est des choses qui font sauter au plafond les rationalistes et les religieux sentimentaux. Quoi, il nous a choisi selon le bon plaisir de sa volonté, faire les autres. Mais ça, on ne regarde pas. C'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Point barre, c'est tout. Et puis on ne juge pas les autres. On n'a pas à juger les gens. Ça ne nous regarde pas. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui témoigne dans mon cœur que j'aime Dieu ou pas? En Dieu, verset 4, en qui il n'y a aucune variation, aucun changement, jamais, 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 dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, en Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde. On vient de le lire. Ce n'est pas Michel Jonton qui invente une nouvelle doctrine. C'est-à-dire qu'en Dieu, nous avons été élus avant qu'il crée même le temps. Donc, de toute éternité. Pour quelle raison? Il dit pour être prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ, au travers de ce qu'il a fait que nous croyons, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais c'est merveilleux. Volonté et bon plaisir qui ne changent pas, dans lesquels il n'y a pas l'ombre d'une variation. Le bon plaisir de Dieu ne va pas changer parce que vous avez fait une grosse bêtise. Il ne va pas dire « Oh, damned, je l'avais prédestiné au salut, je l'avais élu, et voilà qu'il a fait un péché, ah non, non, ben je ne peux plus le garder avec moi, alors allez, en enfer. » Mais non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que c'est écrit. Moi, ça me donne de l'assurance, pas vous. Et également, Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde à être celui qui se sacrifierait pour que nous soyons rétablis dans notre position de fils et de fille de Dieu. Alors, je n'invente pas ça non plus, c'est dans 1 Pierre 1, 18. Attendez que je vous le trouve. 1 Pierre 1, 18, 20. Voilà ce qu'il dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. C'est-à-dire, ce n'est pas en payant, en faisant des faire des messes qui sont payantes, qu'on va pouvoir aller au paradis. Jamais. Ce n'est pas par l'argent et par l'or. Il dit, vous le savez. Ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Le sang de Christ qui a coulé à la croix, c'était le prix pour que nous puissions être pardonnés, sauvés. Il s'est sacrifié à notre place. Et ce que nous méritions, c'est d'être mis à mort à cause de nos péchés. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais Jésus est mort à notre place. Alors il continue, il dit, mais nous avons été rachetés par le sang de Christ, un qui est un agneau sans défaut et sans tache, qui était prédestiné avant la fondation du monde pour être manifesté maintenant à cause de vous. Donc, ça a été prédestiné avant la fondation du monde, avant qu'on soit né, avant qu'on vienne se perdre sur cette pauvre vieille terre. Ça a été prédestiné. Il était prédestiné à être un agneau qui allait être sacrifié pour nous. Et puis, ça a été manifesté dans la création à un moment donné, à Jérusalem, sur la croix, et au moment où nous avons reçu, nous avons cru. Ça devient clair ? il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans le temps à cause de nous. Alors, pourquoi se soucier? Faisons ce que nous avons à faire dans la paix. Comme je vous disais, même Judas a été exhorté par Jésus qui lui a dit « Va faire ce que tu as à faire ». Nous savons ce que nous avons à faire dans les grandes lignes. C'est quoi? C'est le bien. C'est tout. C'est le bien. Et on sait bien ce qui est bien. Et on sait bien aussi ce qui est mal. Alors faisons ce que nous avons à faire. Pour vous, la semaine qui vient, elle est le futur. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Il a éternellement aimé les siens comme il a prévu qu'il soit de toute éternité. Il vous a aimé avant de vous créer et vous a créé comme vous êtes et il vous aime comme vous êtes. Alors, ne vous imaginez pas que vos prières ont le pouvoir de faire changer les plans de Dieu. Dieu ne va pas prendre de nouvelles dispositions à cause de vos prières, non. Vos prières exaucées sont simplement des prières qu'il vous a inspirées. Et vous êtes dans le bon endroit, au bon moment, et vous faites la bonne chose au bon moment en étant inspiré par Dieu. Quand je mets l'image sur les yeux aveugles, eh ben, Dieu le savait que cet homme ou cette femme allait être guéri de toute éternité. Et il a tout préparé d'avance, et toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il a pourvu pour que je puisse prendre l'avion, pour que je puisse avoir un visa, pour que je puisse arriver en Afrique, pour que Nicolas me prépare une réunion dans le village où il y a cette personne aveugle. Mais est-ce qu'il savait qu'il y avait même une personne aveugle, Nicolas? Non, moi non plus. Et puis je suis arrivé, puis j'ai prêché, j'ai mis mes mains sur les yeux, et les yeux se sont ouverts, et il a été guéri. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé que c'était comme ça que ça allait se passer. Et j'étais là au bon moment. Parce que Dieu a voulu. C'est tout. Je ne vais pas me glorifier de rien, de rien, de rien. C'est lui qui fait tout. Pour nous qui sommes dans le temps, nous avons tendance à penser que nous pouvons changer le cours des choses par nos prières. Il n'en est rien. Ce que Dieu veut montrer, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on prie? Il veut qu'on prie pour que le diable et les démons et ses anges connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens 3, je vais vous le lire, Éphésiens 3, 10. Voilà pourquoi on prie. C'est pas pour faire changer Dieu dans ses idées. Éphésiens, comme j'ai dit, 3, 10. Ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous connaissez bien le texte quand même qui dit ça. Hein? Que Dieu fait toutes choses afin que les puissances et les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous connaissez le texte. C'est Éphésiens 3.10 ? Moi, sinon, c'est pas ça, mais enfin, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez, de toute façon, vous qui m'écoutez, vous connaissez le texte. Quand dans l'espace et dans le temps nous demandons une chose selon la volonté éternelle de Dieu, cette chose nous est donnée, c'est tout. Ça, j'ai la référence. 1 Jean 5, 14. Écoutez bien, c'est très important. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il ne vous écoute pas. C'est tout. Alors vous pouvez inventer une doctrine qui dit « Demandez tout ce que vous voulez, Dieu va pourvoir, Dieu va vous donner les choses que vous demandez. » c'est pas vraiment la vérité totale. La vérité totale, c'est qu'il faut demander selon sa volonté. Voilà pourquoi Dieu exauce les prières de ceux qui sont en communion avec lui, qui passent du temps avec lui pour connaître sa volonté, pour se laisser inspirer à faire sa volonté. Ceux-là, ils ont cette assurance, c'est écrit. Ceux-là, ils savent, c'est écrit, que Dieu les écoute. C'est ce qu'on vient de lire. Qui a cette assurance ? Pourquoi vous pensez que je vais dépenser 800 euros pour aller au Burkina Faso, dormir dans des cases avec des margouillas et de la poussière et de la saleté, dans une chaleur étouffante? Pourquoi je vais le faire? Je serais bien mieux au bord de ma piscine. Eh bien, je le fais parce que j'écoute le Seigneur et je suis inspiré, et même à mon insu, je suis quand même inspiré à faire les choses que je dois faire, et je les fais. Voilà pourquoi. Parce que je suis en communion avec Dieu. Et Dieu peut m'inspirer les choses que j'ai à faire. Donc, comme c'est écrit, ceux-là, ceux qui sont en communion avec Dieu, ils ont cette assurance et ils savent que Dieu les écoute. Moi, je sais que Dieu m'écoute. Et que savons-nous encore? Eh bien, que nous possédons la chose que nous avons demandée. Ah bon? Mais oui, c'est aussi dans ce texte de 1 Jean, oui, c'est ça, 1 Jean 5. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Des mensonges, du blablabla, sentimental, pour vous faire croire des choses qui n'existent pas, des fables? Non. Je vous dirai ce que la parole de Dieu dit. Et si vous trouvez que c'est trop compliqué, faites bouger un peu vos méninges. Réfléchissez. Mettez-vous devant Dieu. Nous possédons les choses que nous avons demandées, verset 15. Pas nous posséderons les choses que nous avons demandées, mais nous possédons déjà les choses que nous avons demandées. Pendant que nous sommes en train de les demander, nous les possédons déjà. Parce que celui qui est en communion avec Dieu, il vit de plus en plus hors du temps. Il prie sachant qu'il possède déjà la chose qu'il a demandée. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que ce que je vous dis, Jésus ne le dit pas? Mais bien sûr qu'il le dit. Marc 11, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans le temps. Mais vous croyez déjà que vous l'avez reçu. C'est fort, hein? Alors il y a des gens qui vont chercher de la spiritualité en Inde ou je ne sais pas trop où, alors que nous avons une spiritualité extraordinaire dans la parole de Dieu, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? J'en sais rien. Ça leur est pas donné, peut-être. Je sais pas. Ou alors ils sont un peu malhonnêtes. Je sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne juge pas. Je ne sais rien. Je sais pas. Tout se passe donc dans le présent pour une personne qui est spirituelle. Dans un présent éternel. Pas de passé, de présent, de futur. Le croyant, il est déjà un peu dans l'éternité. Mes frères et sœurs, aucune volonté nouvelle ne s'est jamais éveillée en Dieu. Aucune. Alors, le créé, ce qui existe là, le créé n'a pas toujours existé comme il est aujourd'hui. Mais il était pourtant en Dieu de toute éternité. Là où nous sommes, avant, dans les années 1800, il n'y avait pas cette maison. C'était une vieille ferme. Puis avant ça, il y avait quoi? Des champs. Puis avant ça, il y avait quoi, etc. Reculer, il y avait des dinosaures. Les choses changent parce que le temps passe, on est dans le temps. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui change. Il n'a pas de nouvelles intentions. Le créé n'a pas toujours existé comme il est maintenant. Ce qui est créé là maintenant, ça n'a pas existé toujours. Mais pourtant, en Dieu, c'était comme ça de toute éternité. Quand Moïse demande à Dieu, Seigneur, quand Pharaon me demandera qui tu es, quel Dieu tu es, qu'est-ce que je vais répondre? Moïse lui dit, tu lui diras que je suis t'a envoyé. Je suis celui qui suis. Il lui dit pas, écoute, tu lui dis que je suis le Dieu qui s'appelle. Non, tu lui dis que je suis t'a envoyé. Dieu, il est, point. Et tout subsiste en ce être, il est, point. Ça signifie, celui qui est l'immuable en lui-même, c'est lui qui m'a envoyé. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Dieu est immuable, il demeure identique. C'est le dictionnaire qui dit. Pas le dictionnaire biblique, le dictionnaire Larousse. Il dit, parce que j'ai un dictionnaire Larousse. Immuable, ça veut dire qu'il ne peut éprouver de changement. Immuable, ça veut dire ce qui est éternel, impérissable, inaltérable, indestructible. Et que dit Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 8, c'était le verset préféré de T.L. Osborne, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors, nous sommes des humains limités. Comme l'était Jésus dans ce monde, il était limité, Jésus, dans ce monde. Et puis changé, il a commencé par être un bébé, puis ensuite il est devenu un homme. Puis c'est écrit qu'il a progressé. En tant qu'homme, il pouvait être triste jusqu'à la mort. Mais en tant qu'homme, il n'était pas impassible. En tant qu'homme, il pouvait s'étonner en voyant la foi de quelqu'un. Tout ça, c'est écrit. Il était Dieu dans un homme. Et qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes des hommes en qui Dieu vit aussi. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas simplement que le prêtre fait « ou nous met du sel » ou je sais pas quoi. Non! C'est une réalité ou pas. Mais si vraiment le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes à la fois homme et Dieu. Dieu vient en vous. Et nous avons donc ces deux faces, comme Jésus avait ces deux faces, homme et Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Les gens pensent que c'est de l'orgueil si je dis que tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que la Bible dit. Mais si je ne le crois pas, je suis en train de me rabaisser au niveau de je ne sais pas quoi, alors que Dieu cherche à m'élever, à me faire comprendre que je suis son fils, que vous êtes ses enfants, vous n'êtes pas rien du tout. Vous êtes des êtres exceptionnels, mais pourquoi en douter, puisqu'il le dit lui-même? Alors c'est là qu'intervient la foi que nous avons en Dieu qui met nos deux côtés, humain et divin, la foi ça met cela en accord, ça met ça en accord, notre côté humain, notre côté divin se met en harmonie, d'abord être en harmonie avec soi-même, et puis être en harmonie avec notre Père éternel, qui est immuable. Et c'est à ça qu'on tend, à l'immuabilité, on tend à devenir tel qu'il est réellement dans son éternité. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », mais ça nous fout les jetons, je dis « Je ne peux pas !» Non, mais tu es en progression parce qu'il y a le temps. Et pendant ce temps qui t'est donné, eh bien, progresse. Alors, ici-bas, nous apprenons à être éternel. Nous apprenons à nous comporter en être éternel. À être impassible. C'est-à-dire maître de soi. Être impassible, ne pas changer. Être immuable. Être complètement confiant en Dieu. À ne pas nous soucier. À faire confiance que tout est bien. Ah ben, vous pouvez dire, ah ben Michel, est-ce que tu prêches, ben tu ferais bien de te le prêcher à toi, mais je me le prêche à moi aussi, parce que je suis un être humain comme vous, puis moi aussi, il y a des moments où je dis, mais quand Seigneur, c'est quand que tu vas bouger là? Eh bien, nous apprenons, par les diverses circonstances qui nous arrivent, à être de moins en moins soucieux, et de plus en plus immuable, de plus en plus confiant, de plus en plus rempli de foi. Nous apprenons à prendre courage en étudiant les prophéties de la Bible, en étudiant les règles de comportement qu'on trouve dans la Bible. Vous aimez les uns les autres et toutes ces choses. On a à changer. Nous autres humains, on a à changer. On a à progresser. Parce que quand on est arrivé sur cette terre, on est arrivé pécheur. Le péché, le mot péché, ça signifie erreur. Quand on est venu au monde, on était une erreur. C'est pas qu'on était une erreur, mais on était à côté de la plaque. Sans Dieu, on était perdu. Voilà ce que Dieu dit, on était perdu. Mais qui nous a perdus? Lui. Dans quel but? De nous sauver. Pourquoi? Pour montrer au diable qui s'est révolté contre Dieu que c'est qui a raison? C'est lui. Vous comprenez ça? Moi, je trouve ça magnifique. Nous avons à apprendre à avoir une foi totale en Dieu en toutes circonstances. Alors un jour, nous nous sommes repentis. Moi, c'était le 1er juin 1968 avec Raphaël Duval, le gitan dans la salle du peuple, à Lausanne. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu. C'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. On n'a pas à le refaire 10 000 fois. On croit que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde? Oui. Alors des fois, je dis à des gens, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le sauveur du monde? Ah oui. Je dis, alors, s'il est le sauveur du monde, vous êtes dans le monde? Il dit, oui, pourquoi? Ben donc, vous avez un sauveur. S'il est le sauveur du monde, vous avez un sauveur. Oui, j'ai un sauveur. Donc, si vous avez un sauveur, vous êtes sauvé. Oh non, quand même, je ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez un sauveur, vous êtes sauvé. C'est simplement une question de foi. Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que c'est simplement une vue éthérée, comme ça? Alors nous apprenons, et moi je trouve que c'est passionnant, de pécheurs limités que nous sommes, que nous étions quand nous sommes arrivés sur cette terre, il nous a justifiés, et nous marchons maintenant de progrès en progrès pour arriver à la stature parfaite de Christ. Mais Michel, qu'est-ce que tu viens me raconter? Mais écoutez, c'est encore écrit, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, verset 11. Oh, elle est tellement cribouillée cette Bible que je n'arrive pas à trouver des trucs. Éphésiens 4, 11. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs ou enseignants. Pourquoi est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des gens qui se sont mis à part pour Dieu. Le mot saint, ça veut dire se mettre à part pour Dieu. Un saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait, il a besoin de perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire, il a envoyé ses serviteurs pour prêcher afin que ceux qui ont été mis à part, ceux qui se sont mis à part pour Dieu, soient perfectionnés, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église, d'édification de l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but que nous avons à atteindre dans le temps. C'est génial. Qu'est-ce qui fait tac-tac comme ça? Oh, c'est ça qui fait tac-tac. Ça, c'est le programme de Dieu. Dieu est avant toute chose, et puis nous aussi, puisque nous étions Dieu. Avant de venir au monde, nous étions en Dieu. Mais nous avons été perdus sur cette terre, ce que la Bible nous dit, pour montrer la sagesse infiniment variée de Dieu à toutes les puissances qui s'étaient rebellées contre Dieu. Et nous avons reconnu la voix de notre Seigneur quand nous avons lu la Bible ou quand quelqu'un a prêché. Et nous avons décidé de le suivre. Jésus dit... Les brebis, elles suivent leur berger, elles ne vont pas suivre n'importe quel berger. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Vous mettez plein de moutons ensemble avec 50 bergers. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai vu ça en Suisse. Alors vous avez un berger, il va faire et tous les moutons qui sont à lui viennent vers lui. Ceux qui ne sont pas à lui ne viennent pas vers lui. Vous avez un autre berger qui va faire tous les moutons qui sont à lui vont vers lui. Ben vous en avez, quand ils entendent la voix de Dieu, c'est pas mon berger. Puis d'un coup ils entendent, ah ben celui-là c'est mon berger. Puis ils vont vers Satan, ou vers un démon, ou vers un gourou, ou vers une religion, ou vers la politique, je ne sais rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quoi qui vous mène ? Moi, j'aime bien être mené par Dieu. Il est mon bon berger. Il dit, je suis le bon berger, vous ne manquerez de rien. J'aime ça. Alors, vous êtes de toute éternité, vous avez été perdu sur la terre, vous avez été retrouvé. Jésus a dit, je suis venu chercher mes brebis. Il dit, vous étiez pris dans les ronces, et je vous ai sorti de là, et je vous ai mis sur mes épaules, et je vous ai placé dans une auberge, où j'ai payé pour que vous puissiez être guéri et soigné, jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Vous voyez ? On l'a suivi, et on le suit encore, et chaque jour on change un peu, on fait des progrès, jusqu'à en arriver à l'immuabilité, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ, qui est Dieu. Alors j'aime ça, et j'ai voulu vous le dire ce matin, pour que ça soit bien clair une fois pour toutes, ça n'a rien à voir avec le fatalisme, c'est la foi en Dieu, qui est, et je suis content d'être avec celui qui est et en qui rien ne change. Je n'ai pas à être surpris, parce que je sais que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet que ça arrive, et je suis content. Même si des fois ça fait un peu de la peine, mais je suis content quand même, parce que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vendredi, on va aller encore un peu plus loin dans cette vérité rétablie, et je vais vous parler du cas de Judas. Ça va être formidable, vous allez voir. On va prendre tous les textes au sujet de Judas. Alors pendant la semaine, vous qui m'écoutez maintenant, allez, commencez à chercher dans votre Bible au sujet de Judas. Et c'est ce dont je vais vous parler vendredi prochain. D'ailleurs, c'est passionnant. Vous allez certainement encore apprendre des choses. Et ça va glorifier le nom de Jésus. Merci Seigneur de m'aider, de m'avoir aidé à prêcher ça. Et je te prie que mes frères et sœurs qui n'ont pas tout bien compris prennent le temps de réécouter et puis à réfléchir, à se mettre devant toi, à prier, à te demander ton aide pour qu'ils puissent bien comprendre ces choses et qu'ils puissent être dans la paix, dans la tranquillité, sans inquiétude, dans la paix. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les musiciens jouent sur la place. Au revoir.